cette expédition, Paul?
Alors, le but pour nous, c'était de récupérer des objets pour faire des expositions, pour que le public puisse voir justement des objets du Titanic.
Où est-ce qu'étaient situés justement les objets que vous alliez particulièrement rechercher?
Alors, si vous voulez, comme le bateau s'est cassé en deux gros morceaux, il y en a deux autres plus petits, et qu'il y a une certaine distance entre les deux, il y a beaucoup d'objets qui sont sortis du bateau.
Oui, donc autour ou dans
une traînée? Oui, il y a donc un champ de débris, qui d'ailleurs, tout le monde dit le champ de débris entre l'avant et l'arrière, en réalité, il y a relativement peu d'objets entre l'avant et l'arrière, mais il y en a beaucoup plus près de l'arrière, et dans le sud de l'arrière, assez loin de l'épave, parce qu'il y avait du courant et qu'il y a des objets, une assiette qui descend, elle vole et elle met un certain temps à descendre,
oui,
donc elle dérive. Bon, et il y a du charbon, il y avait... Donc suivant le poids des objets, ils sont plus ou moins près de l'épave.
Vous avez fait combien de plongées en tout sur l'épave du Titanic?
Alors, tous ensemble,
ouais.
On a, la société avec laquelle je travaille, on en a fait 155, quelque chose comme ça, plus... Là, je travaille avec une autre société, puisqu'on ramasse plus d'objets, mais on continue à plonger, où on en a une dizaine de plongées. Mais moi, personnellement, j'ai eu la chance, j'en ai fait 35. Voilà.
35. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans cette épave du Titanic, Paul-Henri?
C'est, bon, pour moi, c'est les épaves, parce que j'aime bien plonger sur des épaves, parce que une épave, c'est en anglais, on appelle ça une time capsule, c'est-à-dire il y a eu un moment donné... La vie s'arrête, tout est en place au même moment.
Oui, c'est figé. Hein.
C'est figé.
C'est comme un voyage dans le temps.
Voilà, et donc on voit des choses assez extraordinaires. Et ce qui est particulièrement passionnant sur le Titanic, c'est qu'on peut trouver l'histoire du Titanic. Bon, parce qu'il y a beaucoup de documents. Et en plus, quand on remonte des objets, on arrive à savoir à qui ils ont appartenu.
Traumatisés.
Pourquoi? Parce qu'il y a des objets que vous pouvez, qui sont vraiment conservés à moins de 3000... À 3000 mètres de profondeur, il y a des objets qui ont clairement été conservés.
Ah oui, oui, oui. On a même remonté des lettres écrites à la main et qu'on peut lire aujourd'hui.
Comment ça
Alors,
se fait qu'on puisse les lire
déjà? Ça se fait parce qu'il y a une raison majeure, c'est qu'elles ne sont conservées. Le papier ne se conserve que s'il est dans un portefeuille, dans une sacoche, dans un sac en cuir.
Du cuir.
Comme ça.
Pourquoi? Parce que le cuir préserve...
Parce que le tannage du cuir, qui se fait avec des produits chimiques, protège les objets de la détérioration par l'eau de mer et par tous les sels qu'il y a dans l'eau de mer, enfin, etc.
Plus d'un siècle après, on peut lire des lettres dans des,
oui.
dans des bagages. Alors racontez-moi, elles disent quoi ces lettres? Vous avez des souvenirs?
Alors il y a une histoire extraordinaire avec un sac, une valise qu'on a remontée de quelqu'un, on a pu retracer toute son histoire, et il y avait des lettres de sa petite amie dedans, parce que c'était un jeune garçon qui avait, je ne sais plus, 22 ans ou quelque chose comme ça, qui était parti avec un copain faire le tour du monde. Et donc, quand on a retrouvé sa valise, et que les conservateurs, qui font des miracles, hein, c'est les gens qui font des miracles, parce que nous, quand on remonte les choses, c'est qu'elle
meurt,
il faut faire la conservation, il y a du travail à faire. Mais parce que c'est long la conservation du papier. Un jour, j'ai remonté un dictionnaire qui faisait 700 pages et le conservateur m'a dit arrête ce genre de truc parce que c'est une page par jour.
Alors, ah oui, pour bon, conserver.
Okay, j'ai des dictionnaires.
Et pourquoi ça se passe comment une technique de conservation?
Parce que c'est bouillé, etc. Il faut aller très très doucement pour séparer les feuilles. Il faut,
ouais, ça
demande un travail considérable. Il faut les faire sécher, mais pas trop vite, sinon ça gondole le papier. Bon, il y a toute une procédure à faire pour que ça ressemble, mais moi, je trouve ça fabuleux d'arriver à lire des lettres écrites à l'encre. Alors, il y avait les lettres de sa petite amie qui lui disait il faudrait quand même que... Parce qu'elle lui écrivait un peu autour du monde dans des points bien particuliers où elle lui disait...
Vous voulez connaître la valeur de votre voiture?
Je vais être là, enfin, etc. Elle disait, bon, il faudrait quand même que tu reviennes. On sent dans les lettres qu'elle en avait marre, qu'ils sont en train de se promener, et parce qu'elle voulait qu'ils reviennent. Et puis finalement, bon, c'est une histoire extraordinaire parce qu'on a retrouvé cette valise. Mais le propriétaire de la valise n'était pas sur le bateau.
Ah bon?
Non, parce qu'ils étaient deux copains, et la veille du départ, ils étaient dans une chambre d'hôtel, il y en a qui a dit « moi je suis fatigué, je me couche », l'autre a dit « oh, moi je vais boire un coup », donc il a bu un coup, deux coups, trois coups, il était dans des bars un peu louches de Southampton, et finalement il y a eu une bagarre, il a pris un coup sur la tête,
et...
le lendemain matin, son copain... Mon copain n'est pas là, comme d'habitude il va être en retard, il a pris sa valise, il est parti sur le Titanic. Le copain s'est réveillé dans la matinée, il était sur un bateau, mais pas sur le Titanic.
Oh,
on l'avait kidnappé pour le faire travailler sur un autre bateau. Et Donc il est parti comme ça, ça lui a sauvé la vie d'ailleurs, parce que son copain, lui, n'a pas survécu. Et nous, on est retombé sur cette valise, dans laquelle, je me souviens, parce que quand on a touché la valise, le couvercle de la valise a bougé, et il y a un morceau de musique qui a apparu. Et moi, je me trouvais à travers le hublot, je voyais le morceau de musique, je suis incapable de lire la musique, mais il y avait le nom de la chanson, enfin, il y avait la chanson en dessous, donc j'arrivais à lire ce qu'il y avait dedans, et on s'est dit, tiens, alors on a regardé un petit peu, avant de prendre la valise et de la mettre délicatement dans un panier, qu'il y avait des instruments de musique, on s'est dit, bah, ça doit être la valise d'un des musiciens d'orchestre,
bien sûr.
Tout, je sais ça. Et puis c'est après, les conservateurs les ont trouvés, on a trouvé son nom, il s'appelait Howard Irwin, et ce qui est étonnant, c'est que bon, ça s'arrêtait un petit peu là. Il y a eu un documentaire qui a été fait par Discovery Channel, et le jour où le documentaire est passé à la télé, il y a une famille qui regardait l'émission. Ils ont été distraits à un moment donné, donc ils ont arrêté leur magnétoscope. Enfin, c'était un système pour regarder. Et quand ils sont venus, il y avait une image fixe sur l'écran, et ils ont vu le nom Pearl Shuttle, qui était le nom de leur famille.
Ah!
Et on dit, ah bon? Et donc ils étaient étonnés qu'on retrouve les lettres. Donc de la petite amie.
Mais dans ce cas-là, ils peuvent la réclamer, ils peuvent les réclamer ces lettres, ça revient à la famille.
Alors oui, ça peut se faire, parce que quand on trouve des choses dans l'eau et qu'on les ramène dans un pays, soit les États-Unis, soit la France, soit l'Angleterre, en France on va voir un administrateur des affaires maritimes, en Angleterre on va voir un receiver of record, aux États-Unis on va voir un juge fédéral et on lui dit voilà, on a retrouvé quelque chose, et il a un an et un jour pour trouver un propriétaire. S'il n'en trouve pas, c'est le sauveteur qui
récupère l'objet.
Oui.
Mais vous avez l'impression, parfois vous aussi, vous avez eu cette impression pendant les expéditions de toucher à l'intime et vous aussi d'être un peu mal à l'aise, parfois en faisant ça, c'est quand même extrêmement personnel.
Non, parce que je trouve que c'est bien de ressortir, si vous voulez, l'histoire de gens dont on n'aurait jamais parlé. Howard et Irwin, si vous voulez, il était sur la liste des passagers, mais il n'est ni sur la liste des disparus, ni sur la liste des survivants, parce qu'il n'était pas à bord.
Ouais.
Bon, personne n'aurait jamais parlé de lui. Il y a beaucoup de gens comme ça, parce que c'est un travail qu'on fait dans cette société, c'est qu'on essaye de trouver d'où viennent les choses.
Ouais,
et ça, c'est une partie assez passionnante, justement parce que grâce aux conservateurs, on arrive à retrouver des pistes, on arrive à retrouver quelque chose. C'est ce que font les archéologues. Bon, nous, on n'est pas des archéologues, on ne se présente pas du tout de l'aide d'ailleurs, mais on utilise les mêmes systèmes que les archéologues pour travailler. Quoi. Voilà.
Alors, vous avez écrit un livre, hein, « Les trésors du paquebot de légende » par l'homme qui l'a exploré dans les profondeurs du Titanic, parce que j'imagine que cette histoire vous fascine aussi. Vous pouvez découvrir encore plus d'anecdotes et de récits de Paul Henry. Mais question un peu, peut-être un peu nounouille, mais il n'y a plus d'ossements?
Alors ça, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en dehors du cuir, toutes les matières organiques sont dissoutes. Alors, pour une raison, il y a déjà l'eau de mer, enfin, etc. Mais surtout, l'eau est très acide, et surtout le sédiment. Le sédiment a un pH à 4, donc c'est un pH très acide. Le pH neutre, c'est 7. Hein, au-dessus, c'est basique. En dessous, c'est acide. Donc, toutes les matières organiques sont dissoutes.
D'accord, ok.